Eh bien, nous commençons dans ce mercredi matin de faire connaissance avec Élie en nous penchant sur les chapitres 32, 33 et 34 de ce livre de Job. Nous sommes déjà le 27 juillet et notre thème est toujours « Connais-toi toi-même » à la lumière de ce livre. Jusqu'à présent, je vous ai demandé de vous mettre devant le texte de Paul aux Romains au chapitre 11e. Je pense que maintenant, vous le savez par cœur, et qu'il va vous rester toujours en mémoire dans la vie quotidienne, que tout est de lui, que tout est par lui, et que tout est pour lui. Maintenant, alors que nous allons vers la fin du camp, j'aimerais mettre comme verset clé de notre thème ces paroles d'Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne au Seigneur, qui aura compassion de lui, et à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Et c'est spécialement le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et vous pouvez vous en rendre compte ici, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous trouverez ces textes dans Ésaïe 55, versets 6 à 9. Dieu notre Père, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ta grâce. Donne-nous d'être simplement ton canal, et que ce que tu as à nous dire par ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs malgré la faiblesse de l'instrument que tu emploies. Nous nous confions éperdument en toi. Nous savons bien que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien, que nous ne savons rien. Mais nous croyons que tu es tout, que tu peux tout et que tu sais tout. Alors nous nous abandonnons entre tes bras en te demandant de manifester ta grâce au milieu de nous aujourd'hui et que ta parole puisse avec ta douceur pénétrer nos cœurs et illuminer notre intelligence, et purifier aussi notre conscience de toutes ces œuvres mortes que nous pensons devoir faire pour toi, et qui n'ont pas d'autre valeur que de nous satisfaire bien souvent, personnellement, car trop souvent, nous nous attribuons quelque chose alors que tout devrait te revenir. Enseigne-nous, nous restons à ton école, Seigneur Jésus. Amen. Mes amis, nous avons vu hier soir comment Job, dans un dernier effort, a cherché de se justifier lui-même. Le chapitre 31 doit vraiment retenir toute votre attention. J'ai eu l'impression hier soir que l'adversaire de Job aurait voulu vraiment m'empêcher de vous parler. En effet, en descendant l'escalier qui, de la tour, devait me conduire auprès de vous, de ce lieu où je prie, où je travaille, j'ai glissé. L'escalier était mouillé. J'étais peut-être un peu fatigué et j'aurais pu me casser le dos. Ça m'a donné une secousse violente dans la tête où j'ai déjà subi une opération et je me suis demandé comment je pourrais faire la réunion. Alors, dans ma souffrance, dans mon insuffisance, en entrant au milieu de vous, j'ai regardé de tout mon cœur au Seigneur et j'ai reçu la conviction que, peu importe mon état, le Seigneur saurait vous parler lui-même par ce chapitre 31. Cependant, ce matin, j'insiste auprès de vous pour que vous relisiez ce chapitre, pour que vous le méditiez dans la prière, car les enseignements qu'il renferme doivent vraiment marquer votre vie. Après nous avoir parlé de sa situation passée dans le chapitre 29, qui est aussi un chapitre capital pour comprendre ce qui était dans le cœur de Job, l'auteur nous a parlé de ce que Job traversait dans son épreuve. Puis, après ce autrefois et ce maintenant, le chapitre 31 nous a montré Job essayant dans un dernier sursaut d'énumérer toutes ses vertus. Versets 1 à 12, sa pureté. Versets 13 à 23, sa bonté. Versets 23 à 25, son désintéressement. Versets 26 à 28, son refus de l'idolâtrie. Versets 29 à 32, sa compassion pour les autres. Versets 33 à 34, sa transparence, il n'est pas un hypocrite. Puis, les versets suivants nous présentaient son honnêteté absolue en affaires et dans toutes ses relations. Donc, dans ce chapitre 31, Job a établi ce qu'on appelle un serment d'innocence. Cela existait, nous le savons, dans la société du Moyen-Orient. L'intéressé avait la possibilité d'affirmer par écrit son innocence. En prononçant, vous l'avez remarqué, je ne l'ai pas souligné hier, mais une imprécation contre lui-même, au cas où son serment se trouvait être mensonger. C'est celui qui établissait son serment d'innocence qui disait, si j'ai fait ce dont on m'accuse, eh bien, qu'il m'arrive ceci, qu'il m'arrive cela. C'est ça, une imprécation. Et vous remarquerez que Job n'y allait pas avec douceur quant au jugement qu'il portait sur lui. Si c'est vrai ce dont on m'a accusé, eh bien, par exemple, que mon épaule se démette, que mon bras soit cassé. Et vous savez, quand on passe par là et qu'on dit des choses de ce genre, on a pesé ce que l'on dit. C'est sérieux. Et l'on sait que ça pourrait se réaliser. Alors, la foi de Job dans la nécessaire intervention de Dieu donnait une grande valeur à ce genre de déclaration qui était signée par la dernière lettre de l'alphabet hébreu qui avait une forme de croix, ce qu'on appelle un tau. Approchez-vous. Il n'y a pas de siège? Bon. Nous lisons, nous étudions les chapitres 31, 32, 33 et 34 du livre de Job. Alors, ayant signé sa déclaration, Job pense qu'il peut maintenant se présenter devant Dieu comme quoi? Comme un prince. Et je voudrais que vous repreniez ce chapitre, parce que je n'ai fait que l'ébaucher. Il a fait un pacte avec ses yeux. Est-ce que ça vous a dit quelque chose? Une alliance avec ses yeux. Parce qu'il sait bien que tout dépend de ce qu'on regarde. Notre regard. Mais évidemment, dans ce monde, vous ne pouvez pas le traverser en fermant les yeux. Vous avez les yeux ouverts. Et forcément, vous avez des réactions. Ce n'est pas, comme je l'ai dit souvent, le premier regard qui est un péché. Le monde est rempli de péchés. Alors vous le voyez. Mais où cela devient péché, c'est le second regard. J'ai vu quelque chose qui n'est pas juste. Puis je retourne. Mon œil retourne à cela. C'est le second regard qui est un péché. Alors j'ai fait alliance avec mes yeux. Je ne regarderai pas ce que je ne dois pas contempler. Souvenez-vous de cela. Et alors, vous êtes quand même édifiés de voir qu'au temps des patriarches, on pouvait déjà cultiver la chasteté. Job condamne dans ses versets 1 à 4 la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La fornication, c'est-à-dire la relation sexuelle avant le mariage. À quoi en sommes-nous aujourd'hui, en cette fin d'un âge? Il nous montre aussi qu'il condamne le mensonge, la ruse, la fausseté. Il vit dans la vérité et il veut la vérité. Il nous montre aussi son désintéressement absolu. Et vous trouverez toujours ses remarques, il parle de ses yeux, il parle de ses pieds, ce qui concerne sa marche, il parle de son cœur, ce qui le remplit, ce qu'il aime. Puis, il parle aussi de ses mains, ce qu'il fait avec ses mains. Et après avoir condamné certaines choses, il dit, si j'ai fait cela, eh bien, qu'il m'arrive ceci, qu'il m'arrive cela. C'est ce qu'on appelle une imprécation. Et chaque imprécation correspond à la gravité du péché. Et j'ai souligné simplement hier que Job parle de 13 transgressions. Comme aussi vous trouvez dans le chapitre 7 de Marc, 13 choses que le Seigneur dit trouver dans le cœur de l'homme. C'est assez extraordinaire. Alors, je vous demande une dernière fois de comparer le chapitre 31 de Job, qui n'a pas de Bible, qui n'a pas la connaissance de la loi, puisqu'elle n'a pas encore été donnée. La loi viendrait par Moïse. Lui vivait avant Moïse. Eh bien, comparez l'éthique, la morale de Job au commandement de Moïse. Puis, comparez tout ce qu'il dit au sermon sur la montagne et aux enseignements de l'Évangile et des Épîtres. Et enfin, quand Job se tait, comme se sont tus ses trois amis, quelqu'un va surgir pour préparer pour lui l'intervention du Dieu qu'il a invoqué et auquel il a demandé une audience. Cette audience avec Dieu approche, mais Dieu qui va lui parler suscite au fond quelqu'un qui sera ce que Job a demandé comme un arbitre entre lui et Job, comme un médiateur avant qu'il entende les paroles mêmes de Dieu. Tout le désir de Job est donc que le Tout-Puissant lui réponde et que sa partie adverse fasse un écrit contre lui. Il n'a pas peur qu'on fasse un écrit contre lui. Il a confiance vraiment d'être acquitté. Alors, comme je vous le disais, avant d'entrer en scène, Dieu se fait précéder par cet homme qui s'appelle Élihu, et dont il n'a pas été question jusqu'à maintenant. Et Élihu veut dire « c'est lui mon Dieu ». C'est la signification du mot Élihu. Et moi, quand je pense à Élihu, ça me rappelle un peu Jean-Baptiste, qui était le précurseur du Christ, qui préparait le chemin du Christ, comme Élihu a préparé l'intervention de Dieu pour Job. Et cet Élihu est un étrange personnage, comme aussi Jean-Baptiste. qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme vêtu de vêtements précieux, disait Jésus, mais qu'êtes-vous allé voir? C'était un homme qui avait un manteau de cuir, de poils de chameau, une ceinture de cuir, un manteau de poils de chameau, et qui se nourrissait, à notre sens, d'une façon bizarre, pour ceux qui n'aiment pas les sauterelles. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et vous ne savez pas ce qui est délicieux. Vous aimez bien les crevettes, pourquoi est-ce que vous ne mangeriez pas des sauterelles? C'est une affaire de goût et d'habitude. Alors ne jugeons pas les gens d'après ce qu'ils mangent ou qu'ils boivent. Mais cet Élieu, c'était vraiment l'homme que Job avait désiré, cet arbitre, ce médiateur, type de qui? De notre grand souverain, sacrificateur, de Jésus, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors le dernier effort de Job, je dis encore, avant de passer plus loin, vous aurez remarqué que pour se justifier, ce dernier effort occupe combien de chapitres? 6. Depuis le discours de Bildad, eh bien, tout ce que Job a dit est contenu dans 6 chapitres. Alors on peut se demander combien de chapitres dans la vie du croyant sont employés en vain pour nous justifier. Vous y avez pensé? Que d'efforts ne faisons-nous pas pour nous justifier, pour dire que nous sommes en règle? Que nous n'avons rien à nous reprocher, que nous ne comprenons pas le pourquoi de ces épreuves. Au lieu de se reconnaître perdu et de justifier Dieu de ce que tout pécheur perdu que nous sommes, Dieu nous justifie. Nous n'avons pas à nous justifier, c'est Dieu qui nous justifie. Et il nous justifie tout en maintenant les exigences de sa justice et de sa sainteté. C'est tout à fait bouleversant. Vous n'avez pas à essayer de vous justifier finalement. Pourquoi toujours ce besoin d'essayer de vous justifier? Qu'est-ce que vous êtes par nature? Vous êtes pécheur. Eh bien, reconnaissez-le. Et ne pensez pas que parce que vous vous êtes converti, vous ne péchez plus. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut prétendre qu'il ne pêche plus. Je me souviens, dans une réunion, un homme s'est levé à un moment donné, et puis il a prétendu devant tout le monde qu'il y avait 6 mois qu'il n'avait plus péché. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? On lui a dit, est-ce que vous permettez qu'on le demande à votre femme? Alors il s'est raté. C'est tellement facile de se glorifier, de se justifier. Voilà, maintenant je suis au Seigneur, je suis un sauvé. Attention! Nous avons toujours la même nature. Mais nous ne suivons plus cette nature parce que nous en avons reçu une nouvelle. Mais quant à la vieille nature, elle a toujours ses mêmes goûts, ses mêmes désirs, mais nous la considérons comme morte. Elle a été ensevelie avec le Seigneur dans le baptême, et maintenant nous voulons vivre de cette nouvelle nature où tout est de Dieu, où tout est créé nouveau, où nous avons d'autres désirs, d'autres aspirations. Et alors nous condamnons notre vieille nature, mais nous n'avons plus à souffrir d'avoir une vieille nature. Je l'ai et c'est tout, mais je la connais, alors je ne la suis pas. Je ne contemple pas mon cadavre. Il est encore beau aujourd'hui. Il sort du salon funéraire. Il a encore de la couleur. Mais allez le voir 15 jours plus tard. Il devient livide, terreux, parce qu'il redevient de la poussière. Le cadavre ne s'améliorera pas. Or, il y a des gens qui sont tout le temps prosternés sur leur cadavre. Alors, ils respirent une odeur tout à fait nauséabonde, puis ça se voit. Ça se voit sur leur visage. Ils ne respirent pas la bonne odeur de Christ. Regardez votre vraie vie. Qui est votre vraie vie? C'est le Christ. Alors, imprégnez-vous de sa présence, vivez en lui. Et comme Moïse, eh bien, vous aurez le reflet de son image sur vous. Moïse, son visage rayonnait et il ne le savait pas. Et pourquoi son visage rayonnait? Parce qu'il avait parlé avec lui. Il était complètement libéré de toute préoccupation personnelle. Nous sommes justifiés par sa grâce. Et c'est ce que Job ne savait pas. Il pensait qu'il était justifié par ses œuvres. Alors quelqu'un m'a dit, mais alors, toutes ses œuvres, tout ce que Job faisait de bien, c'était perdu. Je n'ai pas dit cela. Mais lui a eu une belle pensée. Il a dit alors, ça faisait une couronne pour lui. Exactement, mais ça ne faisait pas son salut. Mais ça faisait certainement une couronne. Il aurait une couronne, mais le salut, il ne l'avait pas parce qu'il avait été ceci ou était cela. Il était pécheur comme tous les autres, mais il serait sauvé par la grâce de Dieu et par la foi. Mais la grâce, c'est ce qui manquait à Job, il ne la connaissait pas, alors il s'attribuait encore toutes ses vertus comme si ça venait de lui, alors que ça venait de la pure grâce de Dieu qui manifestait en lui ces choses qui étaient de Dieu, mais qui revenait à Dieu. C'était l'œuvre de Dieu en lui. Laissez Dieu agir en vous, il fera son œuvre. Et c'est là votre plus grande œuvre. Ce n'est pas de faire des choses pour Dieu, mais c'est de vous laisser faire par Dieu. C'est cela votre œuvre. L'œuvre qui vous sauve, c'est de vous laisser faire par Dieu. C'est ici l'œuvre de Dieu, Jean 6. Que vous croyez à celui qui m'a envoyé. Croyez la parole. Alors, nous arrivons maintenant à notre ami Élihu qui nous est présenté au chapitre 32, où nous trouvons d'abord les raisons de son discours. Ces trois hommes, donc quand Job ne parle plus, et c'est bien le moment qu'il ne parle plus, parce que tant qu'il parle, Dieu ne peut pas parler. C'est le moment qu'il écoute, non plus des voix humaines, comme il a entendu ses amis, mais c'est le moment qu'il écoute Dieu, qu'il se prépare à écouter Dieu. Mais Dieu va employer un instrument. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'il se regardait lui-même comme juste. C'est la conclusion, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a dit. Il se regardait comme juste. Or, qu'est-ce que l'Écriture dit? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Dans un sens, pas même Job. Alors s'enflamma la colère d'Élihu, fils de Barakel, de Bouze, du clan de Ram. Je n'ai pas essayé de vous donner des renseignements sur les origines d'Eliu, ça a peu d'importance, mais on peut, si on a du temps, rechercher cela, mais ça ne nous apporterait rien. Mais alors sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Alors il n'admettait pas cela. Et sa colère s'enflammait aussi contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, et que néanmoins, ils condamnaient Job. Donc ils n'étaient pas d'accord, ni avec Job, c'était Dieu, ni avec ses trois amis. Comme ces hommes étaient plus âgés que lui, Eliu avait attendu pour parler à Job. Donc, Job, quand il parlait à ses trois amis, il y avait un autre cercle, il y avait d'autres personnes qui écoutaient ce duel entre Job et ses trois amis. Mais Eliu avait vu que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche. Et sa colère s'était enflammée. Comment il ne trouvait rien à dire à Job? Lui, il avait quelque chose à dire. Alors Eliu, fils de Barakel, de Bouze, prit la parole et dit. Et vous comprendrez pourquoi il n'a pas pris plutôt la parole. Pourquoi? Parce qu'il est respectueux des us et des coutumes de son pays. Je suis jeune, vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai tremblé et j'ai craint de vous expliquer mon savoir. On a aussi un savoir. Je me disais, selon les traditions, l'âge avancé saura parler. Le grand nombre des années fera connaître la sagesse. C'est ce qu'on a vu que ses amis disaient. Mais en réalité, dans un homme, qu'est-ce qui dit la vérité? C'est l'esprit. Il faut une inspiration. Il ne faut pas simplement des connaissances intellectuelles qu'on aurait apprises dans les grandes écoles. Dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous n'avons rien contre les hautes études, mais ne pensez pas que c'est les hautes études et les titres, tous les titres que vous pourrez posséder, et qui vous donneront l'intelligence. Beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse. Et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent le droit. Parce que vous savez qu'on a des juges, bien souvent, qui sont des hommes âgés et qui ne rendent pas la justice. Voilà pourquoi je me disais, voilà pourquoi je dis, écoute-moi. Maintenant, il se décide à parler. Moi aussi, j'expliquerai mon savoir. J'ai attendu la fin de vos paroles. Là, il se tourne vers les trois amis. J'ai prêté l'oreille à vos raisonnements. Jusqu'à ce que vous ayez examiné à fond ces propos, donc les propos de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici qu'aucun de vous n'a convaincu Job. Aucun n'a répondu à ses discours. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. Il ne veut pas que Job puisse se glorifier en disant « Mais c'est moi qui ai eu le dernier mot. » Ce serait mauvais pour Job. Et alors Eliu dit « Qui est-ce qui va le convaincre ou le confondre ? C'est Dieu. » Et ça, c'était la grande leçon que les amis de Job devaient apprendre. C'est Dieu qui peut le confondre et non pas un homme. Gardez bien cela en mémoire. Il ne m'a pas adressé directement ses propos. Aussi ne lui répondrai-je pas avec vos paroles. Ils ont peur, ils ne répondent plus, les mots leur manquent. J'ai attendu, puisqu'ils ne parlent pas, puisqu'ils s'arrêtent et ne répondent plus, à mon tour, je veux répondre, moi aussi. Je veux expliquer, moi aussi, mon savoir. Car je suis tout plein de propos. L'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Et je pense que vous pouvez comprendre cela, que vous avez déjà eu ce sentiment quand vous avez quelque chose à dire, puisque vous l'avez dans le ventre en quelque sorte, hein. Et ça va sortir, vous sentez que vous ne pouvez pas le retenir, et puis ça va se placer tout seul sur vos lèvres. Je parlerai pour respirer à l'aise. Vous serez soulagé quand vous aurez dit la chose. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je ne ferai pas de considération de personne. Maintenant, je ne vous connais pas selon la chair. Je ne m'occupe pas de vos titres, je ne m'occupe pas de ce que vous êtes. Et je ne flatterai pas un être humain. Car je ne sais pas flatter. C'est une parole qui m'a beaucoup aidé au cours de ces 50 années de ministère. Ne connaît personne selon la chair, comme le dit l'apôtre Paul, pour ne pas être paralysé. Et puis, ne pas flatter, dire « Ah, mais il n'y a cette personne-là, il ne faut pas que je dise ceci, il ne faut pas que je dise cela. » Certains ont cru que je les visais au cours de ce camp. Je ne visais personne. C'est la parole qui était placée devant vous. Puis vous vous reconnaissiez. Alors ne dites pas que je vous ai visé. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Le Seigneur le sait. Et alors, il vous a parlé. Il vous a touché. Votre conscience a été remuée. Mais je veux croire aussi votre cœur. Et que vous avez senti combien le Seigneur vous aimait. Et que moi, je n'étais qu'un porte-parole du Seigneur. Car, si je commençais à flatter, qu'est-ce qui m'arriverait? Le Seigneur me retrancherait. Et vous savez, le Seigneur a tous les droits. On vit aujourd'hui, mais demain, si je ne l'honore pas, si je déshonore son nom, je sais qu'il peut me retirer. Et vous savez, c'est terrible. Quand je pense à Salomon, qui nous a donné les proverbes, qui a écrit lui-même, quand il avait 20 ans, que celui qui suivait les commandements du Seigneur, il prolongeait ses jours, eh bien, Salomon est mort à 60 ans. Il n'a pas prolongé ses jours. On peut prêcher aux autres. Mais ce qu'on a prêché aux autres, on le vit soi-même, tôt ou tard. David, le roi sans le cœur de l'Éternel, à cause de ses erreurs, et parce qu'il était un homme de sang, Dieu n'a pas pu l'employer pour construire le temple. Et lui aussi, est mort. Relativement jeune, 70 ans. Alors nous arrivons au chapitre 33. Maintenant, vous avez fait connaissance avec Élieu, vous savez que vous avez un homme droit, un homme qui est rempli de l'esprit et qui va donner, au fond, à ses amis de Job et à Job lui-même, le message de Dieu. Comment va-t-il être reçu? Est-ce que Job trouvera à lui répondre? Vous verrez que non. Et Dieu peut tout de suite enchaîner. Quand la voix humaine se tait, Dieu continue. Et c'est toujours ma pensée. Je voudrais qu'après une réunion qui m'est donné de faire, quand je me tais, ce soit Dieu qui continue à vous parler. Qu'on ne soyez plus dans la présence d'un homme, mais dans la présence de Dieu. Et pourquoi aussi ai-je besoin de me retirer après avoir parlé pour être dans ma chambre, pour réfléchir et m'humilier aussi de ce que moi-même, je ne vis pas encore tout ce que je prêche. Parce que le Seigneur me parle. Je suis assis au milieu de vous. Quand vous pensiez qu'avec mon regard circulaire, de scie circulaire, hein, là, j'étais en train de vous manipuler, c'est pas vrai. Je suis avec vous, devant Dieu. J'en prends conscience. Je suis un homme comme vous. Alors écoutez, comment vous devez entrer auprès d'une âme quand vous voulez la conseiller, quand vous voulez lui dire quelque chose? Maintenant donc, Job, écoute mon propos. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici que j'ouvre la bouche. Ma langue va parler dans mon palais. C'est la droiture de mon cœur qu'exprimeront mes discours, et c'est une science pure que proposent mes lèvres. C'est très frappant, hein? Vous pouvez reprendre tous ces mots. Au sujet de ces paroles, il nous montre qu'il va ouvrir la bouche. Il va se servir de quoi? De sa langue. Il détaille. Hein? Et puis, il va parler dans son palais. Et on dit qu'il faut retourner 7 fois sa langue dans son gueuloir, hein, pour exprimer un mot français. Retourne 7 fois ta langue dans ton gueuloir avant de sortir une parole. Retourne 7 fois ta langue dans ton palais. Ma langue va parler dans mon palais. C'est la droiture de mon cœur qu'exprimeront mes discours. Vous voyez, il parle de son cœur aussi. Ça vient de son cœur, donc il aime. C'est une science pure que proposent mes lèvres. La grâce et la vérité seront sur mes lèvres. Et qu'est-ce qu'il reconnaît d'abord? L'Esprit de Dieu m'a formé. Le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Alors, si je suis conscient que je suis la créature de Dieu, que c'est l'Esprit qui m'a formé, que c'est le Tout-Puissant qui me fait vivre, eh bien, tout ce que je m'en vais faire, tout ce que je m'en vais dire, je m'en vais le faire et le dire dans sa dépendance. C'est ce qui caractérisait Jésus. Il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père et il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Alors, si tu le peux, réponds-moi. Prends tes dispositions, présente-toi devant moi. Puis, il s'approche. Devant Dieu, je suis comme toi. Il n'est pas au haut d'une échelle et Job tout en bas. Non. Devant Dieu, je suis comme toi. Moi aussi, j'ai été tiré de l'argile. Ma terreur, la terreur que j'inspire, ne t'alarmera pas. Mon autorité ne saurait t'accabler. C'est dans la même veine que vous lisez dans Galates 6, comment l'apôtre Paul conseille aux anciens de s'approcher d'une âme. Il faut y aller avec douceur, sachant nous-mêmes que nous pourrions être tentés. Mais voilà, tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes propos. Je suis sans reproche, sans péché. Je ne dirai pas que Elihu cite textuellement des paroles de Job. Il n'a pas dit directement cela comme cela. Mais enfin, au fond, tout ce que Job disait faisait penser qu'il se croyait sans péché. Au fond, c'est ce que tu as voulu dire. Je suis sans reproche, donc je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a pas de faute en moi. Et Dieu trouve contre moi de l'hostilité. Il pense que c'est Dieu qui lui est hostile. Puisque rien n'arrive sans sa volonté.
il me considère comme son ennemi. Ça, ce sont les sentiments qu'il a. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Ou est-ce que Job se trompe? Job se trompe en croyant suivre ses sentiments. Ce n'est pas nos sentiments que nous devons suivre, c'est la parole. Il me considère comme un ennemi. Il met mes pieds dans des entraves, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi veux-tu disputer avec lui? De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Car on ne peut répondre à toutes ces paroles. Puis maintenant, il y a ce merveilleux chapitre que vous savez probablement presque par cœur, enfin je pense que vous l'avez lu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, où il parle une fois, deux fois, et l'on n'y fait pas attention. Bien, soyez attentifs en ce moment à cette parole. Dieu, dans votre vie, vous a parlé plusieurs fois. Une fois, deux fois. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous auriez tous une histoire à raconter. Vous pourriez tous me citer un fait. Oui, c'est vrai. Il m'a parlé dans ma vie. D'une façon ou d'une autre. Il n'y avait peut-être personne qui vous parlait à vous. Mais Dieu vous parlait dans votre cœur. Vous avez entendu une voix qui vous rappelait peut-être une parole que vous aviez dite, un vœu que vous aviez fait. Dieu vous a parlé. Et il peut parler dans un songe. Et ce que vous verrez, c'est que Dieu emploie d'abord les moyens doux. C'est peut-être un songe. Ne dites pas que tous vos songes viennent du Seigneur. Si vous avez fait un gueuleton un certain soir et que vous avez l'estomac chargé, il est bien possible que vous fassiez un mauvais rêve. Et alors ne l'attribuez pas au Seigneur, mais à votre gloutonnerie. Il parle en songe, mais il peut le faire encore, en vision nocturne. Quand ils sont endormis sur leur couche, oui, ils donnent du sommeil à ses bien-aimés, mais dans leur sommeil, il peut leur parler. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction. C'est des fois des songes prémonitoires qui nous annoncent un événement. Je pourrais vous en raconter quelques-uns. Où j'ai vu dans un songe, quelques mois à l'avance, une chambre d'hôpital où j'étais couché sur un lit alors que j'étais en pleine forme. Et puis il y avait un médecin, c'était 10h du soir, un médecin avec une grande blouse blanche. Et je m'entretenais avec lui à 10h du soir. Quelques mois après, j'étais dans une clinique et j'ai vu exactement tout cela. La tapisserie de la chambre à 10h du soir, le médecin qui avait dû venir d'urgence et qui me parlait. Il m'avait connu à l'âge de 18 ans. J'en avais 40 quand je me trouvais avec lui. Une autre fois, j'étais à Nice et j'ai vu un certain endroit en Extrême-Orient avec les flamboyants, les arbres là, et je me trouvais là, sous ces arbres, parlant à un missionnaire. 4 mois après, j'étais en Extrême-Orient, c'était au Vietnam. Et avec un missionnaire et sa femme, nous nous sommes arrêtés pour faire le plein d'essence. Puis je me suis un peu écarté et c'était cela. Exactement pareil. Puis il y en aurait d'autres. Mais Dieu parle, c'est vrai. Et on peut contrôler plus tard que c'était ça, c'était juste. Donc Dieu est avec nous. Il met un sceau sur ses instructions, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres, de le préserver de l'orgueil l'homme fort. Il y a différentes raisons pour ces rêves, où vous annoncez quelque chose qui va se réaliser, ou alors un avertissement, tu es sur le chemin de l'orgueil, tu te sens en forme. Tu es fort, et vous avez tout à coup un avertissement solennel, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il veut garantir notre âme de la mort, il veut nous empêcher de périr d'une manière brutale, nous sommes peut-être sur un mauvais chemin, alors il emploie des moyens doux pour nous avertir. Mais si on ne suit pas ces enseignements doux, le Seigneur peut parler plus fort, verset 19, par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Je ne dis pas que toutes les maladies ont cela pour cause, mais ça peut être aussi un avertissement. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus désirables. Vous voyez l'aggravation tout à coup de la maladie. Nous n'avons plus d'appétit. Notre chair se consume et disparaît au regard. C'est l'amaigrissement. Ces os qu'on ne voyait plus sont mis à nu. On arrive presque déjà à l'état de squelette. Son âme s'approche du gouffre, on nous dit que c'est incurable peut-être, et sa vie de ceux qui donnent la mort. Puis on nous déclare perdu. Puis Dieu permet que ça aille jusque-là. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, et pour Job, qui a été l'ange intercesseur? C'est Élie. Mais pour nous, qui est l'ange intercesseur? C'est le Christ. Élie devient une figure du Christ. Un entre mille, qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce et dira, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. J'ai trouvé une rançon. Et qui est notre rançon? C'est Jésus, qui est notre rançon. Alors, qu'est-ce qui arrive au moment où l'on accepte le Seigneur, où l'on croit? Eh bien, il y a la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, vous l'avez au verset 25. Et sa chair retrouve la fraîcheur de sa jeunesse. C'est un renouveau total. Il revient au jour de son adolescence. Oui, il y a la jeunesse spirituelle. L'adolescence. L'enfance spirituelle, l'adolescence, la jeunesse, il adresse sa prière à Dieu, qui lui est favorable. Il y a guérison, il voit sa face avec des cris de joie. Dieu rend à l'homme sa justice. Et alors, ayant été l'objet d'une telle délivrance, qu'est-ce que l'homme peut faire? Il confesse son nom devant les hommes, il chante devant les hommes, et il dit, j'ai péché. N'est-ce pas? Comme la femme samaritaine, une fois qu'elle a eu rencontré le Seigneur, elle a pu dire, dans ce monde qu'elle évitait autrefois, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle reconnaît qu'elle est une pécheresse, c'est vrai. Bien, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. C'est vrai, j'ai péché. mais est-ce que vous l'admettez que vous avez péché? Vous savez, on pourrait faire toute une étude sur ceux qui ont dit « j'ai péché ». Ils ont dit les mêmes mots, mais pour certains c'était vrai, c'était profond. David a dit « j'ai péché ». Puis il a confessé son péché. Alors il a été pardonné. Saül, il a dit « j'ai péché », mais en même temps, qu'est-ce qu'il a dit à Samuel? Or, honore-moi, hein. Reste quand même avec moi, pour que on ne sache pas la chose. Tandis que David, et bien malgré que c'était très grave, il a écrit la chose. Il a écrit un psaume qui était lu dans le temple. On savait que le roi avait péché. Il n'a pas caché ses fautes. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne, il obtiendra miséricorde. Mais ne jouez pas avec le péché. Et ne dites pas « j'ai péché » comme ça facilement. Mais que ce soit vrai et qu'il y ait la vraie repentance. J'ai perverti ce qui est droit. Et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Vous voyez, Élie peut parler à Job, mais c'est d'une façon toute différente que les trois amis. Dieu a libéré mon âme pour qu'elle ne passe pas dans le gouffre. Donc on attribue sa guérison au Seigneur. Et ma vie verra encore la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour détourner son âme du gouffre, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Ce qu'il veut, c'est sa restauration, c'est sa conversion et sa vie. Alors, verset 31, « Sois attentif, Job. » Voulez-vous être attentif aujourd'hui? Ou bien allez-vous fermer vos cœurs? Sois attentif, Job. Mettez votre nom à la place de Job. Écoute-moi. Tais-toi, et c'est moi qui parlerai. Si tu as quelques propos à formuler, réponds-moi. Parle, car je voudrais te rendre justice. Sinon, alors, toi, écoute-moi. Tais-toi, je t'enseignerai la sagesse. Alors, nous allons maintenant faire une petite pause. Vous pouvez vous détendre, puis nous allons reprendre pour terminer avec le chapitre 34, ça sera assez rapide. Vous avez attaché vos ceintures? On peut décoller? Dans 15 secondes. Nous parcourons maintenant le chapitre 34. Je ne pense pas qu'il y ait des difficultés, mais si vous avez des questions, notez-les et vous les poserez. Job n'a pas répondu. Alors, Élihu va plus loin. Et après nous avoir parlé de la souveraineté de Dieu qui est capable de nous tirer même de la mort alors que nous devions entrer dans le gouffre et au dernier moment, le Seigneur nous délivre d'une façon merveilleuse, eh bien, il est souverain, mais il est juste aussi. Et c'est là ce qu'Élihu voudrait que Job comprenne. Il n'est pas dans la vérité quand il pense qu'il y a de l'injustice en Dieu. Et si vous avez encore ce sentiment, dans une affaire ou une autre, que Dieu n'est pas juste, ce n'est pas à Dieu que vous pensez. Ce n'est pas le vrai Dieu. Dieu ne peut qu'être juste. Mais d'aucune de ses actions, il ne rend compte. Mais il est juste. Peut-être que vous ne comprenez pas. Peut-être que cela vous apparaît injuste. Mais un jour, vous direz, c'était juste. Et vous adorerez. Alors n'attendez pas le ciel pour adorer. Devenez des adorateurs. Sans comprendre. Sage, écoutez mes propos. C'est aussi pour les amis de Job. Vous qui avez de la connaissance, prêtez-moi l'oreille. L'oreille discerne les propos, comme le palais goûte la nourriture. Choisissons donc le droit pour nous. Reconnaissons entre nous ce qui est bon. Job dit « Je suis juste » et Dieu a écarté mon droit. Malgré mon droit, je passe pour menteur, c'est ce que Job pensait. Hein. Ma blessure est incurable sans que j'aie péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau? Parce qu'on se souvient de la dédicace du temple de Salomon, où Salomon dit « Il n'y a pas d'homme qui ne pêche ». Il n'y a pas un homme sur la terre qui ne pêche. Et pourtant, Job semble avoir dit qu'il était sans péché. Verset 7. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant dans la société de ceux qui commettent l'injustice, cheminant de pair avec les méchants? Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. C'est ce qu'on pouvait conclure. Au fond, à quoi bon, à quoi cela sert? Déjà, Asa a dit à peu près la même chose dans le psaume 73 que vous pouvez lire. Écoutez-moi donc, homme de bon sens, loin de Dieu la méchanceté, Dieu ne peut pas être méchant. Loin du Tout-Puissant l'injustice, il rend à l'être humain selon ses actions, il rétribue à chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas la méchanceté. Le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui lui a confié le monde entier? Vous voyez pourquoi j'ai pris Romains 11. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, vous seriez les seuls à ne pas périr. C'est ça votre traduction? Cette clairière serait un cimetière. Ça rime, hein? S'il ne pensait qu'à lui-même, et s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toute chair. Et moi le premier, périrait en même temps, et avant la fin du temps. Et l'homme retournerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes propos. Est-ce que vraiment celui qui a de la haine pour le droit pourrait gouverner? Et condamnerais-tu le juste, le puissant? Dira-t-on à un roi vaurien, à ses nobles méchants? Dieu n'a pas égard à l'apparence des princes et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et périt. On a cela dans les journaux sans cesse. L'on écarte le puissant sans effort. Nous avons vu cela dans les mois précédents, soit en Haïti, soit dans d'autres pays encore, aux Philippines et ailleurs. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et périt. L'on écarte le puissant sans effort. Car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme, et il regarde tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'injustice. Il n'est pas besoin de prêter une attention longtemps à un homme pour qu'il entre en jugement avec Dieu. Il brise les puissants sans faire d'enquête. Il sait tout. Sur la terre, il faut toujours des enquêtes royales. Dieu n'a pas besoin de cela. Il en met de côté et puis il en établit d'autres à leur place, car il distingue leurs œuvres. Il les renverse de nuit, ils sont écrasés, il les frappe comme des méchants, dans l'endroit où l'on peut les voir. C'est parce qu'ils se sont écartés de lui et qu'ils n'ont pas su discerner toutes ses voies. Ils ont fait monter vers lui le cri de l'indigent. Et il entendra le cri des malheureux. Vous savez, Dieu a des oreilles. Et comme il a entendu le cri du sang d'Abel, il dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Bien, il entend aussi le cri de l'indigent, le cri des malheureux. Vous pourriez faire une étude sur les cris à travers toute la Bible. Mais s'il donne le repos, qui prononcera une condamnation? Est-ce que vous l'avez, ce repos? Est-ce que vous êtes entré dans son repos? Qui pourrait nous condamner? S'il cache sa face, qui pourra le regarder? Cela est vrai, aussi bien pour une nation que pour un homme. C'est pour qu'un homme impie ne règne pas et ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit, j'ai supporté ma peine, je n'agirai plus mal. Ce que je ne vois pas encore, montre-le-moi. C'est ce qu'on a vu au psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Montre-moi s'il y a une voie de chagrin, quelque chose que je ne vois pas. Ce que je ne vois pas encore, montre-le-moi. Si j'ai commis des injustices, je ne recommencerai pas. Est-ce d'après tes idées que Dieu doit rétribuer? Parce que Job a dit un tas de choses, que Dieu devrait faire ceci, Dieu devrait faire cela. Est-ce qu'on peut donner des conseils à Dieu? Je m'en garde même dans la prière. Je lui demande de m'éclairer. Car tu réprouves. C'est toi qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu connais, dis-le donc. Les hommes de sens me diront, ainsi que l'homme sage qui m'écoute. Job parle sans la connaissance. Et ses paroles manquent de discernement. Qu'est-ce que va faire Job? Est-ce qu'il va réagir? Non. Il est déjà calmé. Il a quand même compris certaines choses. Et il accepte. Ça le prépare à entendre la voix du Seigneur. Et il pourra dire, j'ai parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi. Vous voyez le travail d'Élie. Il pose certains jalons qui vont permettre à Job de prendre la vraie attitude. Il ne l'humilie pas, il ne l'écrase pas, mais il prépare le chemin du Seigneur, comme Jean-Baptiste. Repentez-vous. Et ses paroles manquent de discernement. Que Job, verset 36, continue donc d'être éprouvé. Parce que, au fond, c'est pas parce qu'Élie se réjouit que Job soit dans l'épreuve, mais Élie comprend que Dieu a un but qu'il poursuit et il se dit, s'il arrêtait d'être éprouvé maintenant, le but ne serait pas atteint. Parce que si Dieu avait délivré immédiatement Job, qui avait tenu le coup dans toutes ses épreuves, qui avait même subi la sixième épreuve, celle de sa femme, qui lui dit, maudit Dieu et meurt. Comment resteras-tu ferme dans ta perfection? Eh bien, si Dieu l'avait délivré à ce moment-là, je m'en aurais tiré de la gloire encore. Alors, il n'aurait rien appris. Alors il fallait la septième épreuve qui était justement celle des amis. Et Dieu allait employer ses amis pour continuer l'œuvre dans le cœur de Job. Il a souffert de ses amis, des consolateurs fâcheux, mais ces consolateurs fâcheux, Dieu les avait dans sa main pour qu'en définitive, ce soit son œuvre qui soit poursuivie. Même si vous avez des personnes qui sont pénibles pour vous, Dieu peut-être les emploie pour votre bien. Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous acceptez la sœur Clou et le frère Marteau qui vous crucifient? Hein? L'Assemblée croit, oui. L'Église croit. C'est ça, au fond, rien n'est contre vous, tout est pour vous. Est-ce que vous le croyez? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Laissez Dieu faire, il ne se trompe pas. Ça fait peut-être un peu mal. Ce mari Burin, ou cette épouse Lim, ah, il y a le frère Rabot et la sœur Varlope, et lui qui dit cela. Vous voyez que vous trouvez des expressions heureuses. Alors, que Job continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme le font les hommes injustes. Il faut encore qu'il soit corrigé là-dessus. Car il ajoute à son péché une faute grave. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses discours contre Dieu. Parce qu'en final, eh bien, c'était contre Dieu qu'il parlait sans vouloir. Nous nous arrêtons ici, l'heure étant venue, et pour ce soir, priez pour que ma voix demeure. J'ai eu un terrible coup hier soir et une nuit complètement d'insomnie et de grosses douleurs, mais j'espère que malgré tout, nous pouvons continuer, mais nous avons besoin de vos prières. Donc pour ce soir, nous avons les chapitres 35, 36 et 37. Et nous en aurons fini avec l'intervention d'Élie. C'est 73 versets. Pour ce soir, il n'y a pas de problème, je pense. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, notez-les et vous nous les direz. Demain matin, nous commencerons d'entendre la voix de Dieu dans les chapitres 38 et 39. Jeudi soir, le chapitre 40 et 41, 58 versets. Et vendredi matin, nous terminerons par l'épilogue, Job, chapitre 42e. Et vendredi soir, ce sera la réunion de témoignages. Et samedi matin, le départ. Vous voyez que ça a été peut-être long pour certains. Mais en même temps, c'était court. Mais si Dieu le permet, nous aurons couvert les 42 chapitres du livre de Job. C'était un défi que nous avons cru devoir relever. J'espère que personne n'aura une indigestion de la parole.
mais qu'au contraire,